Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
À tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous pouvez vous écouter l'émission des histoires du soir avec Olivier. Et ce soir, eh bien, nous sommes en juin, c'est la dernière du cycle 2018-2019 et nous allons aborder la prochaine petite demi-heure la question de l'Ordenstadt. Qu'est-ce que c'est donc que cet état-ordre qui, en plein Moyen-Âge, est apparu au nord de l'Europe, et plus précisément dans une zone qui correspond à peu près aujourd'hui aux états baltes et à la Prusse orientale, c'est-à-dire une zone actuellement totalement occupée par la Pologne et les trois petites républiques baltes. Tout commence donc en 1193. Donc nous sommes encore dans la période, en effet, dites des croisades, hein, puisqu'elles vont durer à peu près deux siècles, c'est-à-dire à la fin du XIe siècle, et puis à peu près encore pour 200 ans. Et tout cela nous mène donc en 1193, date à laquelle le pape Célestin III lance officiellement donc les croisades, dites les croisades baltes. C'est la fondation en 1199, donc un siècle après la prise de Jérusalem par les croisés, hein, bien connue. Donc c'est la fondation de l'ordre teutonique à Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, c'est cette cité des États latins du Proche-Orient, hein, les fameux États latins de la Terre Sainte, qui est situé au nord. Hein, et donc l'ordre teutonique est fondé à Saint-Jean-d'Acre par des pèlerins germaniques, donc lors de la troisième croisade. On est en pleine épopée, effectivement, de ces croisades. Puis en 1226, c'est la bulle d'or de Rimini, avec Frédéric II du Saint-Empire, qui accorde à l'ordre teutonique sa souveraineté sur les territoires qu'il conquiert en Prusse. Souveraineté aussi accordée donc par les Polonais, avec le traité de Kruszwitz en 1230. Et le pape aussi accorde par la bulle de Reitel. 1237, l'épopée continue, donc il faut bien voir qu'il y a à la fois une présence des chevaliers teutoniques en Terre Sainte, qui vont se battre aux côtés des hospitaliers, des templiers, ils vont vivre l'histoire de la Terre Sainte, notamment la tragique, évidemment, perte de Jérusalem, les triomphes, des musulmans, que l'on appelait à l'époque les infidèles, qui vont finir par chasser de Terre Sainte les croisés, teutoniques compris, ça se termine, on sait, par la prise de Saint-Jean-d'Acre, et puis après, les fameux chevaliers, de ce qu'il en restera, pourront survivre, hein, en effet, dans l'île de Chypre pendant quelques temps, puis en fait, plus tard, l'Empire ottoman s'emparera également de l'île de Chypre. Ce qui fait qu'à Chypre, à l'heure actuelle, comme j'ai déjà rappelé dans pas mal d'émissions, il y a plusieurs châteaux gothiques, non seulement des châteaux, mais aussi des cathédrales, des monastères, c'est tout à fait extraordinaire, tout ça est en ruine, bien sûr, aujourd'hui, mais ça remonte à cette époque. Là, la période de la famille, notamment de Lusignan, famille qui va régner sur le royaume de Jérusalem. Alors, développement donc de ces teutoniques en Terre Sainte, et puis aussi développement, bien sûr, de ces teutoniques dans cette zone où il n'y a pas vraiment d'État, et où finalement on leur a accordé, tout simplement, la possibilité de créer ce qu'on appellera un État-ordre. C'est un exemple absolument unique dans l'histoire de la constitution d'un État qui soit géré intégralement par des chevaliers. C'est tout à fait étonnant dans la mesure où, on le sait, quand les Templiers ont été chassés de Terre Sainte, eh bien c'est précisément parce qu'on redoutait qu'ils deviennent un État très puissant que, au début du XIVe siècle, eh bien, vous le savez bien, Philippe le Bel les élimine, les fait arrêter sous un prétexte fallacieux et élimine l'ordre du Temple. Et le pape, évidemment, bien s'il se soit rebellé à l'époque, n'a rien d'autre à faire que de l'entériner. Alors, les Teutoniques vont survivre, et c'est ça qui est fort intéressant, au prix de la création de cet État-ordre. Alors, en 1237, c'est l'absorption de la Livonie, qui est incorporée donc par les fameux chevaliers, cette fois-ci porte-glaive. Il y a deux ordres, des chevaliers porte-glaive et chevaliers teutoniques, qui sont des chevaliers germaniques. Tout cela. En 1242, c'est la bataille du lac de Paipus, c'est-à-dire l'échec de la conversion de la Russie orthodoxe au catholicisme, face au prince de Novgorod, c'est le fait de l'expansion liée aux croisades. Et puis on continue cette petite chronologie, en 1291, terrible catastrophe, c'est la prise de Saint-Jean d'Acre, que je l'évoquais tout à l'heure, par les Mamelouks, c'est terminé de la présence des chevaliers et des occidentaux en Terre Sainte, l'aventure des croisades s'achève. 1308, évidemment, forcément, désormais, ces chevaliers vont se retrouver en déshérence, on le sait. L'ordre des Hospitaliers va survivre à la liquidation de l'ordre du Temple, parce que précisément, ils vont reprendre une bonne partie des biens des Templiers. Et les Teutoniques vont se développer au nord, donc dans toute une série de possessions territoriales, pour en créer effectivement ce qu'on appellera cet Ordensstaat. Alors, 1308, c'est la prise de Danzig, bien sûr, Gdansk, c'est au nord de la Pologne, évidemment, à l'heure actuelle, prise de Danzig contre la marche de Brandebourg et la Pologne à cette époque-là. 1326 à 1362, c'est la guerre polono-teutonique, traité de Kalitz, la Pologne renonce à la Pomerélie et au pays de Chemno. 1346, c'est le rachat de l'Estonie au Danemark. Et en 1402, c'est l'acquisition de la nouvelle marche de Brandebourg. L'ordre atteint à cette époque-là son apogée. On est à l'apogée de cet Ordensstaat. Il faut que vous imaginiez toute cette côte balte et prussienne du nord de la Prusse, composée d'États. D'États ordres contrôlés par ces chevaliers avec des grandes villes telles que évidemment Königsberg, telles que Gdansk, donc c'est-à-dire Danzig, imaginez, Königsberg, tout ça, qui sont sur la mer Baltique et qui bien sûr font la richesse de cet État ordre, parce que ce sont des comptoirs commerciaux majeurs par lesquels passe évidemment tout le commerce qui va ensuite irriguer toutes les grandes foires du nord de l'Europe, si important durant cette période. Donc apogée de l'ordre à partir du XVe siècle, on sort progressivement du Moyen-Âge. En 1402, c'est l'acquisition de la nouvelle marche de Brandebourg, donc comme j'ai dit tout à l'heure, et en 1410, c'est la bataille de Grunwald, avec l'échec contre l'union de la Pologne-Lituanie. C'est la signature du premier traité en 1411, traité de Thorn. Puis de 1454 à 1455, c'est le traité de Colline et Mewé, vente de la nouvelle marche au prince électeur de Brandebourg. C'est-à-dire qu'on voit bien, avec le XVe siècle qui s'ouvre et la Renaissance qui approche, que finalement les États-nations, qui évidemment étaient encore un peu en gestation du temps du Moyen-Âge, où nous avions de grands empires, de grands ensembles, rappelez-vous du Saint-Empire romain germanique qui succède à l'Empire carolingien, eh bien, effectivement, en succession de tout cela, eh bien, les États se forment. On voit la Pologne ici apparaître, on voit la Prusse orientale, et progressivement, effectivement, eh bien, la présence des Teutoniques et des porte-glaives en Europe du Nord, dans cette région balte, eh bien, va régresser, car ces États, tout simplement, se taillent leur terrain au profit de la liquidation des vieux chevaliers héritiers des croisades. Ainsi donc, le temps, comment dire, du reflux pour les chevaliers teutoniques et porte-glaive à venir, hein, de 1454 à 1466, c'est la guerre dite de 13 ans, hein, avec un échec face à la Ligue de Prusse, hein, on voit la Prusse qui apparaît, et face à la Pologne, signature du second traité de Thorn, hein, réduit à la Prusse orientale, hein, après sécession de la Prusse orientale, l'ordre devient vassal de la Pologne. Donc là, c'est le début de la fin. 1519-1521, on est au XVIe siècle, le Moyen-Âge vraiment se termine. C'est la guerre polono-teutonique. Elle prend officiellement fin en 1525 avec le traité dit de Cracovie, donc dans le sud de la Pologne, par lequel le grand maître Albert de Brandebourg, converti au protestantisme luthérien, hein, accepte de passer sous suzeraineté polonaise. Donc, s'en est fini de cet état-ordre, qui aurait pu continuer d'exister, mais qui, on le voit, a cédé, tout simplement militairement, face, à l'émergence des fameux royaumes, des états, des fortes identités militaires et royales, que vont être la Prusse et la Pologne, et aussi la Russie. Il n'y avait plus beaucoup de place pour les ordres de chevalerie, en tout cas sous la forme d'entités politiques. Alors, si on examine rapidement une carte de ces... cet ordre chevaleresque, évidemment, on s'aperçoit au moment de son apogée, 14e, 15e siècle, on a vraiment quelque chose de tout à fait impressionnant qui part dans le sud, un peu au nord de Breslau, dans la Mazovie, région polonaise à l'heure actuelle, qui à l'époque s'appelle la Prusse orientale, entre autres, depuis Danzig, c'est là que ça commence à démarrer, dès 1309, donc 14e siècle, pour remonter vers le nord, et s'enrouler, si je puis dire, le long de la mer Baltique, avec des états comme le Samokitienne, le Courland, l'Livland, l'Estland, tout cela forme l'Estland, qui vraiment est pratiquement une sorte, si vous voulez, d'Estonie, ça nous fait penser au mot Estonie, comme Livland fait penser à la Lettonie, forcément, on a là quelque chose qui donnera plus tard les États baltes. Et cet état donc part quand même du nord de la Prusse pour atteindre quand même Novgorod, je suis pas très loin de Novgorod, c'est-à-dire que là il y a un choc inévitable, on le voit bien, on le pressent bien, un choc futur et inévitable entre cet état ordre, cet état de chevaleresque, de chevalier teutonique et porte-glaive, entre la Russie, émergente, puissance émergente de l'époque, la Russie qui à la fin du Moyen-Âge va s'étendre, va posséder tout son espace géopolitique, et puis dans le cœur même de l'Europe, c'est le fameux Saint-Empire romain germanique qui va progressivement repousser cet état ordre. La Prusse va émerger, elle fera partie de la province du Saint-Empire, puis après on sait bien qu'elle aura son aventure propre, la Prusse, et puis bien sûr d'autres états qui sont au sud, comme un peu plus au sud, comme la Pologne bien sûr, qui eux aussi vont émerger. Donc tout cela quand même est assez intéressant, et on peut progresser ainsi sur une petite chronologie de cartes, si vous voulez, de 1225 à 1250. On a vraiment l'embryon d'un état teutonique au sud, autour de Chemlo, de villes comme Malbork, Pregnor. Au milieu de tout ça, on a un duché de Lituanie, et puis au nord, encore un autre élément de l'état ordre. On a les teutoniques au sud, les porte-glaives au nord, qui eux occupent toute une région dans le sud extrême de ce qu'on appellerait l'Estonie actuelle. Vedden, Dorpal, Pardao, Vindao, Mitao, tout ça au bord de la mer Baltique. Et si on poursuit cette série de cartes de 1308 à 1455, alors là effectivement, on voit très nettement qu'on ajoute ce qu'est à l'heure actuelle la Prusse orientale, un morceau de la Pologne et les États baltes, qui forme en effet vraiment l'Ordenstadt, le Deutscher Ordenstadt en tant que tel, hein, donc avec toute une série de villes qui se développent et des îles aussi possédées dans ce qu'on appelle l'Ostsee, hein, c'est-à-dire en fait la mer Baltique, la mer de l'Est, hein, donc bien sûr on le sait, c'est un, l'alliance en fait d'un pouvoir militaire exceptionnel, hein, que sont les chevaliers, hein, et de l'autre côté, hein, bien sûr, une fortune économique, hein, liée à la situation exceptionnelle, hein, de ce monde de la Frise, hein, des pays baltiques, hein, donc si important durant cette période. Et ça, c'est la période 1308-1455. Puis on continue avec 1466, où effectivement, ben, il ne reste plus grand-chose de tout cela, si ce n'est une structure donc qu'on appelle la Livonie au nord, hein, l'Ordenstadt, hein, State, c'est écrit l'Ordenstadt, encore une fois, une petite structure autour de Königsberg. Hein, c'est intéressant, Königsberg, c'est l'actuel Kaliningrad, une ville qui est une enclave russe, hein, un port stratégique qui n'avait pas échappé au vide. Évidemment, vous imaginez bien, aux teutoniques, hein. Et donc tout cela évidemment est extrêmement important, hein, pour le sud. Et puis le nord, on a toujours cet état donc qui va bientôt être réduit, hein, sous le coup évidemment des Polonais et des Russes, hein, donc de territoire occupé par les porte-clèves. Nous sommes en 1466. Tout cela va donc progressivement bien nous amener à ce qu'on va appeler la fin, hein, de l'état teutonique, hein, puisque dans l'espoir d'interrompre ce déclin, Albert de Brandebourg-Ansbach, hein, de la famille Souabe des Hohenzollern, a été élu 37e grand maître de l'ordre en 1511. On est vraiment à la fin. Albert de Brandebourg a pris l'initiative de déclencher un nouveau conflit de 1519 à 1521 avec la Pologne. Donc, et cette guerre a été un désastre pour l'état teutonique. Après une trêve de 4 ans, il est évident que le conflit allait reprendre bientôt. L'état monastique des chevaliers teutoniques, donc, va s'effondrer. On voit évidemment disparaître au profit de la création des nouveaux États, hein, qui vont apparaître dans la région, apparaître donc effectivement les trois pays baltes, hein, bien sûr, Estonie, Lituanie Lettonie, hein, ça c'est ce qui va apparaître au nord. Et puis au sud, évidemment, on aura ce partage entre les éléments sous contrôle polonais, hein, au fur et à mesure de l'évolution de la Pologne, hein, et de sa dissolution ou sa réapparition. Et puis, le vieil élément prussien, ne l'oublions pas, la Poméranie, la Prusse orientale, tout ça, c'est ce qui a formé des territoires qui, pendant une période, hein, qui va quand même de 1199 jusqu'à 1521. Hein. Donc ça fait quand même 1199, 1200, 1300, 1400, 1500, pratiquement 400 ans d'histoire, hein, pour cette structure qui, bien sûr, à la différence des Templiers, ne va pas disparaître, puisque à l'heure actuelle, l'ordre teutonique, donc fondé le 19 février 1199, hein, existe toujours. Il utilise la règle de Saint-Augustin, c'est un ordre qui est de type militaire jusqu'en 1929, hein, et donc on rappelle qu'il a été fondé par Heinrich Walpott, hein, en 1190, hein, à Saint-Jean-d'Acre. Alors, les armes de cet ordre sont constituées d'une croix de sable chargée d'une croix potencée au champ d'argent, hein, je cite, et évidemment, à l'heure actuelle, hein, nous sommes bien avancés déjà dans le 21e siècle, eh bien, l'ordre teutonique, hein, a principalement, vous l'avez compris, des activités caritatives, comme l'ordre de Malte. Je rappelle que l'ordre de Malte est un autre mot pour désigner les hospitaliers de Saint-Jean, hein, qui s'appelle l'ordre de Malte parce que Charles Quint, avait fait un don à cet ordre des hospitaliers pour le remercier de son appui dans différentes guerres, hein, et avait donc donné l'île de Malte, hein, donc en pleine jouissance pour les chevaliers de l'ordre de Malte, de l'ordre donc des hospitaliers. Donc c'est pour ça que Malte, hein, à l'heure actuelle, on appelle ça par extension le fameux ordre de Malte. Si vous regardez la croix pâtée, hein, des hospitaliers, ben, elle vous rappellera évidemment comme par hasard, hein, la croix du temple, parce que tout simplement, hein, évidemment, il s'agit d'une structure qui, au XIVe siècle, lui a succédé. Les teutoniques, c'est un peu la même affaire, sauf qu'ils existent encore en tant que tels. Et cet ordre, donc, évidemment, est essentiellement basé sur donc des activités de type caritatif. Le siège principal est quand même la forteresse teutonique de Marienbourg, aujourd'hui Malbork, que l'on peut bien sûr encore visiter, hein, bien sûr, et donc cet ordre bien sûr subsiste évidemment d'une façon, si je puis dire, quand même relativement en pointillé, hein, mais ça a été une structure extrêmement importante et qui, on l'oublie souvent, a survécu sous une autre forme, hein, bien sûr, on l'a compris, hein, la possession politique et militaire a été terminée, mais a survécu quand même pendant jusqu'à nos jours, hein, un peu comme l'ordre de Malte, hein, qui est parvenu jusqu'à nous, transfiguré par l'héritage du temple, l'ordre des Templiers, et bien sûr par les hospitaliers de Saint-Jean. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. C'est une curiosité que cet Ordensstadt, il faut savoir que ça a existé, que c'est une structure qui a représenté un contre-pouvoir, ça c'est incontestable, un contre-pouvoir contre les États, une structure internationale, une structure difficile à contrôler, à posséder, et c'est bien pour ça que la Pologne, la Prusse, la Russie, tous ces États émergents de la fin du Moyen-Âge, eh bien, ont combattu très sévèrement cet Ordensstadt, hein, pour mettre la main évidemment d'abord sur leur magot, hein, puisque bien sûr ils étaient extrêmement riches, hein, étant donné les activités, notamment commerçantes, hein, sur toutes ces grands ports de ce qu'on appelle la Hanse, hein, hanséatique, hein. Et donc voilà un peu, hein, leur histoire. Évidemment, face à des États-nations, des États émergents, ils ne pouvaient bien sûr que être amenés à finir par reculer. Hein, cette originalité ne pouvait pas survivre plus longtemps. Alors, suite à tout cela, eh bien, en conclusion, hein, en quelque sorte, retenons en conclusion, hein, que, le plus bel héritage de tout ça qui reste, eh bien, c'est sans doute les trois petites républiques baltes, hein, qui ont été dominées par les Russes ensuite, hein, on s'en serait douté. Elles ont été dans l'Empire tsariste, et puis elles ont quand même eu, heureusement, en 1919, une sorte de risorgimento. Elles sont devenues des États indépendants, ces petits états baltes, jusque, vous le savez, en 1939, pacte germano-soviétique, Hitler et Staline se les partagent. Les soviétiques vont garder les états baltes en leur possession jusqu'à la disparition de l'URSS, hein, jusqu'en 1991, hein. Et puis les républiques baltes vont redevenir des états indépendants. Ce sont des petits états pacifiques extrêmement dynamiques, hein, dont certains ont déjà adhéré à l'Union Européenne, enfin ils ont adhéré à l'Union Européenne, certains sont dans l'euro, voire peut-être les trois d'ailleurs, ce serait à vérifier. Et bien sûr, ça représente l'avenir, parce que, bah, tout simplement, cette zone, hein, de la mer Baltique est aujourd'hui, encore une fois, une zone économique extrêmement majeure et importante, hein. Et donc les Baltes d'aujourd'hui sont un peu les descendants, hein, des vieux chevaliers teutoniques qui avait rêvé là de s'installer au bord de la Baltique en paix, dans un bel état ordre qu'ils estimaient supérieur probablement aux formes monarchiques de l'époque. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette petite topo sur Nordenstadt vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous pour le cycle 2019-2020, de manière sporadique probablement aussi, car hélas, il m'est assez difficile de faire des émissions, une fois par mois comme précédemment. C'est assez compliqué. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse donc à présent en compagnie de la programmation musicale de Radio Terra Zen et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir, à très bientôt.